présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean-Raphaël Hirsch, président du Comité français pour Yad Vashem et ancien président de la commission Solidarité de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour son livre « Réveille-toi, papa, c'est fini », préfacé par Boris Cyrulnik, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui retrace en fait le parcours de votre famille, une famille exceptionnelle puisqu'elle a compté plusieurs grandes figures. Votre père, dit Jigo, qui est l'un des fondateurs de la filière de résistance, la 6e, des éclaireurs israélites de France, et après-guerre, l'un des créateurs de la sécurité sociale en France. Votre tante, Chata Simon, qui dirigeait la maison de Moissac, où étaient accueillis des enfants juifs réfugiés. Leur sœur Betsy, qui était assistante sociale à Lausée. Et vous-même, Jean-Raphaël Hirsch, puisque vous êtes le plus jeune résistant de France. Vos parents ont été déportés à Auschwitz sur dénonciation. Seul votre père en est revenu. Vous avez donc été à la fois orphelin, enfant caché et fils de déporté. Et c'est ce passé à la fois glorieux et douloureux que vous nous faites partager avec une grande sincérité dans votre livre. Alors peut-être on va commencer avec vous, Jean-Raphaël Hirsch, au commencement, et c'est-à-dire revenir sur le parcours de votre père qui est né en 1906 en Roumanie, c'est bien ça?
Exact. Mon père en effet est un jeune homme qui naît en Roumanie, d'une famille qui est en difficulté pour toutes sortes de raisons. D'abord, il y a moins d'argent à la maison, et c'est un euphémisme. Et puis, et surtout, la famille a été un peu décimée par une épidémie de fièvre typhoïde. Et enfin, le jeune homme est mis dans un lycée allemand en Roumanie, et où il y a essentiellement donc une discipline, une façon de voir le monde à l'allemande, et ça commence par le fait de casser la figure aux jeunes juifs.
Il est quasiment le seul juif dans ce...
Au début, ils sont quelques juifs, mais les années sont tellement rudes que finalement, ils se retrouvent seuls. Et ça rend service... dit mon père avec humour, là, il est obligé pour faire face, et c'est le début de sa vie, pour faire face à ces Allemands antisémites qui lui tombaient dessus lors des récréations, il se met à faire avec acharnement une culture physique qui en fait un homme musculaire d'une part, mais volontaire dans son esprit, disant si quelqu'un te menace, eh bien, cogne de toutes tes forces et n'aie pas peur.
C'est à cette période-là qu'il va se lier avec des amis qui vont l'accompagner par la suite en France, c'est bien?
Alors,
ça
Dans cette Roumanie, Transylvanie, les Juifs sont donc dans cette condition, et mon père a depuis toujours ce sentiment qu'il m'a transmis sans doute d'être un chef d'équipe. Et par conséquent, il ne se conçoit pas seul. Il a apprécié ce que c'est que d'avoir quelques copains pour se battre. Et donc, il va créer la section locale d'Hachomer Hatzair, qui sont des jeunes avec une philosophie pour Israël et plutôt un petit peu discrètement de gauche peut-être, peu importe. Et il va faire autour de lui une troupe. Et puis ça ne lui suffit pas. Parmi cette troupe, il prend ceux qui sont les plus athlétiques et les plus décidés. Et il crée un groupe roumain qu'on appelle Barisia. Et quand il va venir en France, puisque aussi bien un jour il est assommé au cours d'une récréation particulièrement difficile, il est assommé, il est dans le coma, on l'amène à l'hôpital, et là, toute la famille et lui-même se disent ça peut pas durer, parce que la prochaine fois, ça se terminera très mal. Et alors on lui propose d'aller en Autriche, d'aller en Italie, mais lui, il veut aller vers la France des Lumières, et il essaye d'y aller. Il arrivera d'ailleurs avec 200 francs en poche, tout pauvre, mais il va amener rapidement, comme un bon juif roumain, toute sa famille, ses sœurs, ses frères, et puis son groupe de Baricia qui vont être complètement autour de lui et qui vont être si spectaculaires que le fondateur des éclaireurs israélites de France, Castor Gamzon, se dit, alors que le mouvement des EI vers 1926, mon père arrive vers 1924, marque le pas. Il y a eu environ peu de gens, 25 jeunes peut-être, que rassemble difficilement Castor, qui voit soudain cet homme venu de l'Est, assez rude, assez comme ça en apparence fruste, mais qui a des copains solides, et il se dit « ça va m'apporter du renfort ». Et c'est la rencontre de Castor Gamzon et de Sigismond Hirsch, qui sont, Castor Gamzon est à l'évidence, mais peut-être parmi les tout premiers des éclaireurs israélites de France.
Alors c'est ça, c'est qu'en fait, il arrive en France, il arrive à s'inscrire à l'université, en médecine, à Montpellier. Ça, je laisse les lecteurs suivre toutes les méandres de cette aventure. Mais parallèlement, comme vous le disiez, à ses études, il s'investit dans les éclaireurs israélites de France, donc avec ses compagnons de Roumanie. Et c'est très intéressant parce que c'est un moment qui va être important dans la vie de votre père. Je pense que c'est aussi une manière pour lui de s'insérer dans la vie en France, et puis ça va avoir évidemment une importance fondamentale pendant la guerre.
Mon père, qui avait connu comme expérience la méchanceté viscérale, l'antisémitisme essentiel chez les Allemands, n'en attendait rien, et il était déjà prémuni physiquement pour faire le coup de poing, moralement pour tenir face à ces gens, et c'est pourquoi les éclaireurs israélites de France sont un mouvement essentiel, parce que en 1939-40, ils groupent 2500 jeunes décidés et qui sont juifs sans état d'âme et qui vont sauver tous ceux des leurs qu'ils peuvent, puis ensuite entrer dans les maquis, puis ensuite rejoindre l'armée française avec des maquis juifs proprement dit. Donc c'est un peu ce début de l'histoire des éclaireurs israélites de France. Première intervention de mon père dans la communauté, avec deux personnalités radicalement différentes, puisque Castor Gamzon est un homme bon chic, bon genre, bien français, bien cultivé.
Issu de la bourgeoisie.
Issu de la bourgeoisie française, bien qu'il ait un grand-père rabbin quand même. Il est essentiellement proche, a priori, des Israélites français. Tandis que mon père, lui, incarne le métèque qui vient de Pologne, l'étranger qui vient de Pologne, de Roumanie, de Hongrie. Et ces gens-là, dans les années 1925, sont mal reçus en France, disons-le. Ils sont mal reçus en général. D'une part, on voit s'ébaucher ce que sera la crise de 1929, le chômage qui commence, des difficultés, mais ils sont reçus mal aussi par la communauté des Israélites bien français. Et dans le livre, je décris comment on appréhende ces gens qui n'ont pas un bon genre et qui ensuite ont leur manière à eux. Imaginez que des jeunes se mettent tout d'un coup à défiler au pas cadencé dans les rues de Paris en tenue, en uniforme, comme s'ils préparaient une guerre, avec une troupe, et c'est un mot fort, une troupe d'éclaireurs israélites, en chantant de leur large poitrine des chants hébreux. Les rabbins sont effrayés, les bons juifs sont terrorisés, en disant « vous allez ressusciter l'antisémitisme, on ne souhaite pas ça ». Voilà.
En l'occurrence, votre père, qui est à l'origine notamment de la création de la sixième, tenait à ce que ce mouvement de résistance s'inscrive dans une résistance plus large, notamment liée à De Gaulle, c'est bien ça ?
Oui, enfin là, vous allez un peu vite, parce que évidemment la vie fait que ce jeune homme qui est obligé de vivre dans une chambre de bonne, de laver la vaisselle la nuit pour gagner sa vie, et qui fait péniblement ses études de médecine, va se voir, alors qu'en peu à peu, va grimper les échelons sociaux par son mérite, puisqu'il entre dans un service de radiologie chez un patron antisémite, mais il est tellement précis, tellement à l'heure, tellement discipliné, que l'antisémitisme du patron s'évanouit et qu'il le prend même comme élève préféré. Et Sigismond Hirsch va devenir médecin. Ce qui est une très belle réussite. Mais en 1933, quand on était médecin avec des diplômes, on n'en était pas autorisé pour autant à exercer, car il fallait être naturalisé. Et on ne naturalisait pas facilement les gens à cette époque de difficulté. Eh bien, en 1933, mon père est à la fois médecin, naturalisé, et il peut exercer, et il rencontre sa femme. Ça fait beaucoup de choses. Et il a un fils. Il a un fils qui, dans une famille juive, son premier enfant étant un garçon, c'est tout à fait... L'univers commence à sourire à cet homme. Mais, 1933, le nazisme commence à mettre en place Hitler. Et mon père assiste assez médusé à la montée du nazisme et au comportement d'une France qui n'a pas l'air de réaliser ce qui va lui arriver et qui fait tout pour minimiser les choses. Et mon père, lui, a une certaine préscience de ce qui va se passer. Alors en ce qui concerne ce dont vous avez parlé, oui, il va travailler comme une brute et avoir un accident cardiaque et être réformé, mais il va quand même aller au service militaire. Il va y aller en rebelle parce qu'il va amener sa voiture, ce qui n'est pas autorisé. Sa voiture lui permet d'évacuer son régiment qui est encerclé en enlevant les sièges, en couchant des soldats avec leurs fusils, en faisant des passages et des passages, jusqu'au moment où les Allemands criblent la voiture de balles. Et mon père est fait croix de guerre par le général Hanziger, qui était néanmoins antisémite. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir ce geste. Et alors, c'est la débâcle. Et là, mon père arrive à Moissac, dans un centre qui va devenir essentiel, pour qui va devenir la citadelle des éclaireurs israélites de France, tenue par qui, je vous le demande, par sa sœur, par Chata Simon. Et quand on dit Chata Simon, on est un petit peu injuste, parce qu'elle a bel et bien un mari qui est solide, qui est lui aussi un fondateur des EI avec Castor, Bouly, Édouard Simon, qui est un homme exceptionnel. Et il se retrouve là, en pleine défaite du côté de Bordeaux, comme la moitié de la France. Il faut voir le film Weekend à Zuidcote pour se rendre compte de ce que ça a été, de ce que cette débâcle a été, avec les gens sur les routes mitraillés par des Stukas, des avions allemands. Les gens éperdus, et par un miracle, mon père tombe dans les bras de Castor, et alors il décide de ne pas aller rejoindre De Gaulle, mais de protéger la communauté juive et de la mettre en situation d'être la plus épargnée. Et donc, la première décision que prennent ces EI, c'est de faire un camp près de Moissac, Via Rose, qui va grouper 250 éclaireurs israélites de France, et ça va être là le début, en effet, de cette organisation juive EI, que va être la sixième. En zone nord et en zone sud. À partir de Moissac, il va y avoir une organisation. Cette organisation va être celle des maisons d'enfants, qui a commencé en septembre 1939 et qui va cacher des enfants, recueillir d'abord des enfants, puis les cacher. Et là, le frère et la sœur ont un concept radicalement différent. Chata Simon avait commencé par faire des maisons d'enfants où l'on recueillait les enfants, comme je l'ai dit. Et quand mon père revient démobilisé, il lui dit « Tu sais, la France est vaincue, les Allemands occupent la France, tu sais, ton histoire de maison d'enfants, c'est très très dangereux. Si jamais les Allemands rentrent dans la maison, tous tes enfants vont être pris. Moi, je vais faire à 20 km de toi le secteur d'Auvillard, je ne veux pas entendre parler de toi comme ça, je vais cacher moi les gens dans les fermes, un par un, ou alors dans des couvents pour les filles. » Mais si jamais on ne les prendra pas tous ensemble...
Oui, il avait une préscience véritablement de ce qui pouvait arriver.
Voilà. Et vous vous souvenez de la maison d'Izieux avec Madame Zlatine, qui avait bon cœur, mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et quand mes parents, qui cache 400 enfants, 500 Moissac, 400 Auvillard. Et les deux fonctionnent de façon synchrone. Quand Chata veut cacher particulièrement quelqu'un, elle l'envoie à Auvillard. Et les gens commencent à avoir une formation à Moissac, puis ils vont à Auvillard. Et puis, mes parents sont arrêtés le 18 octobre 1943 par la Gestapo, sur dénonciation d'un capitaine français vichysois. Et dans les jours qui viennent, Chata a compris le danger. Frères et sœurs ont une synergie fabuleuse et elle disperse immédiatement la maison de Moissac, d'autant plus qu'elle a eu quelques petites alertes. Et où est-ce qu'elle met les jeunes ? Dans les fermes qu'a préparées mon père.
En l'occurrence, excusez-moi, mais j'aimerais qu'on revienne aussi un peu à vous, Jean-Raphaël Hirsch, parce que vous étiez actif à cette période-là. Vous étiez, on l'a dit, le plus jeune résistant de France. Oui. Qu'est-ce qu'il advient de vous quand vos parents sont déportés ?
Il y a une cohérence toute simple, et je n'ai guère de mérite, dans la mesure où le fait de disperser des jeunes juifs qui souvent viennent d'Allemagne, qui ne parlent pas français, dans des fermes, fait que pourquoi d'abord est-ce qu'on peut les Français les acceptent dans les fermes ? Parce qu'il y a 1 800 000 prisonniers et il y a 700 000 personnes qui vont partir au service du travail obligatoire. Donc il n'y a plus assez d'hommes pour faire marcher les fermes. De sorte que d'avoir des employés gratuits, comme ces jeunes qui ont 20 ans, les paysans sont preneurs. Voilà, à condition qu'ils n'aient pas à les payer. Oui, mais en dispersant les jeunes, ces jeunes qui sont des orphelins sans le savoir, car leurs parents ont déjà été déportés, ces jeunes qui n'ont pas de nouvelles, ont besoin de gens qui viennent tout de même leur parler. Et c'est ainsi que mon père, faute de mieux, dit à son fils, prends ce vélo et va relier un peu les uns aux autres. Et c'est moi qui deviens ainsi agent de liaison dans la résistance. On découvrira plus tard l'importance de ces agents de liaison qui, je dis pour rire, que l'armée des ombres a été au début une armée de cyclistes. Nonobstant l'immense respect qu'on doit avoir pour l'armée des ombres, mais c'est vrai qu'à vélo, le vélo ne fait pas de bruit, tout le monde sait faire du vélo, le vélo n'est pas cher, et un enfant en vélo devient un agent de liaison parfait parce qu'il n'attire pas l'attention. Sauf que cet enfant va être assez brillant pour ceci, parce qu'il y a une question de vie ou de mort. Quand on voit, par exemple, un jeune qui cherche à séduire une fermière dont le mari est en Allemagne et que la fermière n'est pas consentante, il faut que l'enfant qui va voir dise à son père « Change-moi ce gars de là parce que ça va faire un drame ». Quand un enfant, un jeune qui est caché et déprimé, il faut lui éviter d'aller dans un café, d'aller boire. Il faut éviter tout scandale. Et c'est à ce moment-là que l'enfant de 9 ans à vélo, joue en fait le rôle d'un résistant, c'est-à-dire avec des responsabilités d'homme, des analyses d'homme, et son père le suit avec une espèce de foi peut-être un peu démesurée, mais voilà. Donc, c'est ainsi que mes parents vont finir par être... mais peut-être faudrait-il lire un peu le livre pour comprendre comment on a pu cacher 400 personnes dans une région sur 4 départements, comment aucun de ces jeunes n'a été pris, et comment, après la déportation de mes parents, ils ont été regroupés dans des maquis, et ils ont capturé un train allemand, et libéré Castres, et se sont engagés dans l'armée française. Oui, les Juifs se sont battus. Non, les Juifs ne se sont pas laissés tuer comme des moutons. Ceux, les malheureux qui ont été pris, étaient désinformés, ne pouvaient pas imaginer la férocité nazie et ne pouvaient pas imaginer qu'au XXe siècle, du seul fait qu'ils étaient juifs, on allait les gazer, on allait les exterminer. Mais c'est peut-être là où mon père, qui avait été élevé au milieu des Allemands, avait une préscience.
On le voit, Jean-Raphaël Hirsch, cette énergie que vous pouvez avoir, on peut la lire également dans les mots de Boris Cyrulnik qui le dit dans sa préface, que vous êtes un exemple de résilience, lui qui connaît bien le concept puisque c'est lui qui l'a élaboré. Vous avez...
Et qu'il a été un pur héros parce qu'il s'est sauvé grâce à son mérite, sinon il était mort comme tous les autres, et c'est par un réflexe fabuleux que Boris s'est sauvé lui-même. Donc, il sait de quoi il parle.
Mais vous-même, est-ce que vous avez eu conscience de ça, de ce processus de résilience? On l'a dit, votre mère est morte à Auschwitz, votre père, qui avait cette énergie incroyable que vous décrivez dans votre livre, après Auschwitz, est revenu, a continué à travailler, a fait une carrière incroyable, mais il a... L'idée est beaucoup, beaucoup changée. Vous dites même que vous vouliez, que c'était un peu votre rôle pour, en tant qu'enfant, de faire qu'il oublie, de faire qu'il aille mieux. Ce processus de résilience, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu conscience? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu?
J'ai toujours eu une éducation de par mon père essentiellement, qui était de dire ne te rends jamais, bats-toi de toutes tes forces et après tu ne te feras aucun reproche. Il parlait beaucoup de Trompeul d'or ou de ces héros juifs qui n'avaient jamais cédé. Et donc, l'exemple de mon père a toujours été déterminant pour moi. Et quand il a été... J'ai fait comme ça de la résistance parce que j'obéissais à mon père. Et j'essayais d'y amener peut-être un esprit un peu adapté. Mais quand mes parents ont été pris, j'ai aidé à dissiper les papiers qui auraient pu faire prendre les 400 jeunes. Donc j'ai pris mon autonomie et puis j'ai été évacué parce que les Allemands me cherchaient jusqu'y compris dans un couvent où je leur ai échappé par miracle. Et j'ai été ensuite recueilli, tenez-vous bien, par un autre résistant dans les Bouches-du-Rhône. Et ça a recommencé, mais... Le docteur Jean Daniel, pour qui j'ai obtenu la médaille des Justes parmi les nations, m'a emmené dans les maquis et j'ai recommencé à servir comme ça. C'est un concours de circonstances, mais c'est aussi la formation solide de mon père qui avait parfaitement appréhendé les Allemands quand il avait 17 ans et qui m'avait transmis un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs peut-être juives parce que c'était un éclaireur israélite de France. Et des valeurs pour Israël, parce que c'était quelqu'un qui a toujours été pour recréer notre pays d'Israël.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Jean-Raphaël Hirsch, et j'invite donc les auditeurs à lire votre livre « Réveille-toi, papa, c'est fini » qui est sorti aux éditions Albin Michel. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.